VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech avec vous. Bienvenue dans cette édition du jeudi 22 décembre 2016. Au sommaire ce soir, Gabi.
Dossier République démocratique du Congo, situation toujours tendue dans plusieurs régions.
À rechercher encore une arme qui court encore de la police qui a été prise par les manifestants. Il y en avait 3. Le bouclage de ce matin nous a permis d'en récupérer 2.
Nous aurons les dernières nouvelles avec nos correspondants sur place.
Attaque d'un village ivoirien par des militaires guinéens. Bilan, au moins un civil a été tué et plusieurs autres blessés.
Guerre en Syrie, les observateurs de l'ONU sont sur place à Alep-Est pour superviser la phase finale des opérations d'évacuation.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Investiture en RDC du gouvernement de transition qui devra, dans moins de 2 ans, faciliter l'organisation des élections repoussées par manque de moyens financiers, selon la Commission électorale nationale. Charlie Kasereka a assisté à la cérémonie au Palais du Peuple à Kinshasa.
Investi devant 313 députés présents sur les 500 qui comptent l'Assemblée nationale en RDC, ce gouvernement est le fruit de l'accord entre majorité au pouvoir et une frange des partis de l'opposition signé le 18 octobre dernier sous la facilitation de l'ancien premier ministre togolais Eden Kodjo. Le premier ministre entrant, Sami Badibanga, a présenté un programme axé sur la cohésion nationale selon ses propos, promettant de mettre en avant la consolidation de la paix à l'est du pays, mais surtout l'organisation des élections telles qu'inscrites dans l'accord du 18 octobre. Le nouveau premier ministre promet de s'investir pour la sécurité interne et avec le banditisme, mais aussi promet de se battre pour l'impunité avec les arrestations arbitraires. Pour les secteurs socio-économiques, aujourd'hui avec une monnaie sous-évaluée, Badibanga promet des efforts là-dessus, comme dans l'éducation et la santé publique, promettant la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les accouchements pour les femmes, tels qu'inscrits dans la Constitution de 2006. Sur les plans diplomatiques, Sami Badibanga promet une collaboration efficace avec tous les partenaires de la RDC. Les 67 membres du gouvernement de transition qui viennent d'être investis devront dans moins de 2 ans faciliter l'organisation des prochaines élections, repoussées par manque de moyens financiers selon la Commission électorale nationale indépendante CENI. Charlie Kasereka depuis Kinshasa pour VOA Afrique.
RDC toujours à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. L'armée congolaise a bouclé aujourd'hui un quartier dans lequel elle a procédé à de nombreuses arrestations. La deuxième ville de RDC vit des moments très tendus depuis 3 jours. Le point Narval Mabila.
Il quittait le boulot vers 13h. Il descendait aux arrêts au niveau des maternités. Il a trouvé là-bas les soldats de FARDC. On l'a arrêté directement. On vient de l'accuser que lui aussi il avait fait les désordres le 19 décembre. On a exigé de lui donner 150 000 francs. Alors nous n'avons pas les moyens de sortir les 150 000 francs. On ne sait pas, on va faire quoi.
Auprès de mon mari, il vient de sortir à l'hôpital hier à 12h. Maintenant, il est parti au service pour demander quelques argent pour aller payer à l'hôpital. On l'a arrêté sans problème.
À rechercher encore une arme qui court encore de la police qui a été prise par les manifestants. Il y en avait 3. Le bouclage de ce matin nous a permis d'en récupérer 2, d'en retrouver et récupérer 2. Des indications précises sont données sur la destination de la 3e. Et nous espérons que dans toutes prochaines heures, nous pourrons parvenir à la retirer de cette mauvaise situation.
En dehors du bouclage, le général Jean Bosco Galenga revient sur les bilans généraux de manifestations de 20 au 22 décembre, évalué à 6 victimes et 67 blessés et plusieurs infrastructures saccagées. Ceci est la version officielle de la police. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Les autorités congolaises ont arrêté au moins 18 militants de mouvements citoyens à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, avant de les libérer. Nous avons sur place Ernest Mouero.
Il était 8h passées des 30 minutes le matin de ce 22 décembre lorsqu'une trentaine de militants de la Lucha, Filimbi et du mouvement Réveil des Indignés ont observé un sit-in devant le siège de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Selon le répondant des Filimbi au Sud Kivu, Robert Njangala, l'objectif était de manifester leur refus vis-à-vis de la poursuite du mandat de Joseph Kabila en créant une sorte de place tarir à la Bukavienne devant l'Assemblée provinciale où siège le législateur. Des jeeps pleins de policiers équipés sont arrivés sur le lieu. Ça n'est suivi des scènes de bastonnades au moyen de crosses d'armes qui, selon Judith Maroy, manifestante de la Lucha, ont occasionné des blessures au sein des militants avant d'être brutalement embarqués jusqu'au bureau de la police. Selon Robert Njangala, pendant plus d'une heure, 18 manifestants ont été mis au garde à vue à la police, parmi eux des filles militantes. Nous avons appris que depuis un temps, aucune manifestation à caractère politique et des revendications n'est autorisée jusqu'à nouvel ordre sur instruction du vice-premier ministre sortant et ministre de l'Intérieur. Ferrière, Évariste et Beauchab. Vers 11h passées, ces militants sont libérés sans condition et poursuivent leur chemin en passant par l'hôtel des postes, siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
On quitte la RDC pour le Nigeria où le gouvernement a annoncé des récompenses financières en faveur des personnes qui dénonceraient des détournements de fonds publics. Dans leur croisade contre la corruption, les autorités nigérianes promettent aussi de protéger ces lanceurs d'alerte. Le point d'Ilidico.
La ministre des Finances nigériane, Kemi Adeosun, a déclaré qu'en cas de retour volontaire des fonds ou des avoirs publics volés ou cachés, grâce aux informations fournies par un lanceur d'alerte, celui-ci pourrait prétendre à une somme couvrant 2,5 à 5 % du montant total recouvré. Elle a ajouté que l'objectif de cette politique est de révéler le plus souvent au grand jour les crimes financiers ou assimilés, de soutenir la lutte contre ces crimes et la corruption et d'améliorer le niveau de confiance dans les entités publiques au Nigeria. Le Nigeria, pays d'Afrique le plus peuplé, traverse une période difficile avec la baisse des prix du pétrole, un secteur qui représente 70% des recettes publiques du pays. Les montants récupérés grâce aux lanceurs d'alerte seront donc réaffectés au financement d'infrastructures dans le pays, a fait savoir le gouvernement. Selon la ministre nigériane des Finances, les dénonciateurs seront protégés par la loi. Elle a assuré que le dispositif prévoit l'anonymat et la protection du lanceur d'alerte contre d'éventuelles sanctions.
En Côte d'Ivoire, un village à la frontière avec la Guinée a été attaqué par les militaires guinéens. Bilan, un civil tué, plusieurs blessés par balle. Le village est au cœur d'un litige frontalier qui remonte à l'époque de l'indépendance.
En Tunisie, le gouverneur de Sfax a été limogé, ainsi que deux responsables de la sécurité de la province, une semaine après l'assassinat d'un ingénieur attribué à Israël par le Hamas palestinien. Pas de réaction pour le moment de l'État hébreu.
Au Kenya, la commission électorale va désormais pouvoir décompter manuellement les résultats des élections d'août 2017 en cas de défaillance du système électronique. Cet amendement à la loi électorale, voté aujourd'hui, est rejeté par l'opposition.
En Libye, un vieux MiG-23 appartenant aux forces loyales au gouvernement d'Union nationale, le GNA, s'est écrasé près de la ville de Tarouna, à 60 km au sud-est de Tripoli, tuant les deux pilotes libyens à bord. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.
Les autorités cambodgiennes ont saisi 1,3 tonnes d'ivoire venant du Mozambique et destinées à la Chine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, peut-être une lueur d'espoir en Syrie. Une trentaine d'observateurs de l'ONU sont à Alep-Est pour superviser la phase finale des opérations d'évacuation des rebelles et des civils. Bagassikoura.
Parmi les 31 employés de l'ONU assignés spécifiquement à la supervision, 20 avaient commencé à arriver de Damas dès mardi soir. Selon un haut responsable de l'ONU, une centaine d'employés d'agences des Nations Unies, en grande majorité syriens, étaient déjà sur place à Alep, mais pas en tant qu'observateurs. Le 19 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait décidé à l'unanimité, y compris la Russie, principal allié de la Syrie, de déployer rapidement des observateurs onusiens à Alep-Est pour y superviser les évacuations et évaluer la situation des civils. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui participe aux opérations d'évacuation depuis plusieurs jours, espère que tout sera terminé demain vendredi. Le gouvernement syrien pourra ainsi proclamer la reconquête totale de la deuxième ville de Syrie, sa plus grande victoire contre la rébellion depuis le début du conflit en mars 2011.
Toujours dans l'actualité internationale, au moins 23 morts, tel est le bilan d'un attentat perpétré aujourd'hui à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Selon le ministère irakien de la Défense, trois voitures piégées ont explosé près d'un marché public dans un quartier repris par les alliés il y a 2 mois. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de cet attentat, qui a également fait au moins 15 blessés.
Réouverture aujourd'hui du marché de Noël de Berlin, c'est en Allemagne, où une attaque au camion bélier a tué 12 personnes lundi. Sous forte présence policière, les activités ont donc repris, mais sans la musique et les lumières traditionnelles. À leur place, des bougies et des gerbes de fleurs laissées par les riverains. Une chasse à l'homme se poursuit en Europe pour le Tunisien de 24 ans, Anis Amri. Il est soupçonné d'être l'auteur de l'attentat. La chancelière allemande Angela Merkel a tenté de rassurer son opinion en disant espérer bientôt l'arrestation du suspect tunisien, alors que la police est vertement critiquée dans le pays pour avoir laissé filer cet islamiste notoire.
Et ici aux États-Unis, la transition se poursuit. L'équipe de Donald Trump a annoncé le choix de l'ex-directrice de campagne Kellyanne Conway comme conseillère à la présidence, le poste le plus élevé qu'aura une femme au palais sous le prochain gouvernement. Il faut dire aussi que Conway est la première femme à diriger une campagne présidentielle victorieuse aux États-Unis après avoir rejoint la campagne de M. Trump. Elle a toujours été une ardente défenseure du mania de l'immobilier.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco tout de suite avec Eric Manirakiza.
Au Mali, le gouvernement injecte environ 270 millions de dollars américains en 2017 dans une dizaine de projets d'infrastructures routières. Il s'agit notamment de l'aménagement de 10 km de voirie à Bamako, de la construction d'un échangeur reliant le troisième pont de Bamako à la route nationale numéro 6, ainsi que des tronçons vers la frontière avec la Guinée. Le réseau routier malien est l'un des plus faibles d'Afrique, selon les données de la Banque africaine de développement de 2014. Yaoundé abrite demain un sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. L'urgence portait sur la stabilisation des économies des pays membres, qui nécessite un ajustement vigoureux et structuré des dépenses publiques pour permettre une relance rapide du développement. La CEMAC regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad. Lancement aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la construction d'un nouveau stade olympique érigé à Ebimpe dans la banlieue d'Abidjan sur 20 hectares. Il sera doté d'une capacité de 60 000 places. Financé entièrement par la Chine pour environ 107 millions de dollars américains, ce stade permettra notamment l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes en 2021. Les travaux vont durer 24 mois à partir de janvier 2017.
L'actualité sportive ce jeudi, c'est avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Mauvaise nouvelle pour le Sénégal avant la Cannes 2017.
Diafra Sakho, régulièrement blessé depuis le début de la saison, a subi une opération au dos qui le privera de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute, vous le savez, dans 3 semaines au Gabon. C'est ce qu'a déclaré son entraîneur Slaven Bilic, l'international sénégalais de West Ham, 26 ans, qui n'a fait que 2 apparitions cette saison en Première Ligue, ne rejoindra donc pas les Lions pour cette CAN 2017. On rappelle que le Sénégal évoluera dans le groupe B avec la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie.
La Confédération africaine de football a effectué le tirage au sort du tour préliminaire de l'édition 2017 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Qu'en est-il ?
Le Vita Club hérite d'un tirage au sort piège avec les Royals Leopards du Swaziland qu'ils avaient éliminé en Coupe de la CAF en 2015. Le reste du tirage, on fait le point avec Élisée Ungpatin.
Ce sera début février pour les 2 compétitions africaines des clubs. En Ligue des Champions, si le tenant du titre Mamelodi Sundowns est exempté, c'est pas le cas de l'SV Club de Kinshasa. Disqualifié l'an passé pour avoir lié un joueur suspendu, le club congolais va affronter Royal Leopard du Swaziland. Pour le reste, l'AS Standard jouera l'Asfa Yeninga dans un duel sous-régional, tout comme Oroya US Gorée, AC Leopard de Delizy face au Camerounais de l'UMS de Loum ou encore Coton Sport du Garoua contre les Sud-Soudanais d'Al Tabara. En Coupe de la CAF, les Ivoiriens de Gagnoa affronteront les Burkinabés de l'AS Sonabel, l'Étoile du Congo face aux Équato-Guinéens de Racing ou encore les Gabonais d'Akanda contre le Renaissance Football Club de Kinshasa. Les matchs retour de cette confrontation auront lieu dans la semaine du 17 au 19 février prochain. Boycon, Élisée Ungpatin, VOA Afrique.
Quelques résultats de la NBA, championnat de basket nord-américain.
La star d'Oklahoma City, Russell Westbrook, a écœuré la Nouvelle-Orléans avec ses 42 points, victoire 121-110. Cleveland a puni Milwaukee 113-102. L'Espagnol Marc Gasol a marqué 38 points, égalant son record personnel lors de la victoire de Memphis à Détroit, 98-86. Et puis Chicago, en perte de vitesse, a fait les frais du renouveau de Washington. Les Bulls se sont inclinés à domicile, 107-97.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci d'écouter VOA Afrique, soyez les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Le Monde aujourd'hui avec Anastasie Tudiech et chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour, première escale, la Gambie.
C'est le 10 janvier prochain, soit à une semaine de la date prévue pour l'investiture du président élu gambien Adama Barrow, que la Cour suprême de la Gambie doit statuer sur le recours introduit par le président sortant Yahya Jammeh. Ce dernier réclame l'annulation du scrutin du 1er décembre et la tenue de nouvelles élections. Pour beaucoup d'observateurs, cette cour n'est pas habilitée à statuer puisqu'elle est dirigée par un juge venu du Nigeria. C'est aussi l'avis du barreau gambien qui avait promis de saisir les autorités nigérianes à ce sujet. Barka Ba est un journaliste qui a couvert les élections gambiennes pour la chaîne de télévision sénégalaise TFM. Abdourahmane Dia l'a joint à Dakar.
C'est un système judiciaire totalement inféodé au pouvoir exécutif. Et dans la mesure où la plupart des juges eux, sont redevables à Yahya Jammeh, et une des particularités de ce système judiciaire, assez singulièrement, c'est que c'est des juges qui sont d'habitude originaires du Nigeria et d'autres pays anglophones, le Ghana. C'est le président de l'actuelle Cour suprême en est une illustration parfaite. C'est un Nigérian qui préside cette Cour suprême. La deuxième raison, c'est que Yahya Jammeh, dans la gestion autocratique de son pouvoir, n'avait pas laissé le coup de force à cette Cour suprême. Et il avait mis fin de manière assez brutale au mandat des juges, ce qui fait que depuis un an, cette Cour suprême n'existe quasiment pas sur le papier. Donc c'est quelque chose qui vient de le rattraper, parce que peut-être qu'il n'avait jamais anticipé une défaite électorale.
Vous revenez de la Gambie. Alors quelle opinion les Gambiens ont-ils de cette Cour suprême ?
Majoritairement, les Gambiens ont une vraie défiance par rapport à cette Cour suprême pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ils ne peuvent pas accorder beaucoup de crédibilité à une Cour dont les juges sont de notoriété publique très proche du pouvoir. D'ailleurs, il y en a un qui s'est tristement illustré pendant la campagne électorale en prenant fait cause pour le président Jammeh et en battant campagne carrément comme un membre du parti au pouvoir, la PFC.
Alors, est-ce que vous pensez, au vu de tout cela, que les Gambiens croient à une solution pacifique de la crise politique que traverse ce pays?
Je ne connais pas beaucoup de Gambiens qui seraient pour un recours à la violence, sauf si ça devait être une contrainte et que le président Jammeh ne leur offre pas d'autres issues. Mais pour la plupart des gens avec lesquels je me suis entretenu, ils espèrent au fond d'eux-mêmes que la Gambie va surmonter cette crise de manière pacifique, de manière vraiment douce, pour qu'il y ait une bonne transition entre le président élu et le président sortant, et que surtout que la Gambie puisse servir d'exemple démocratique au reste de l'Afrique.
Barka Ba, journaliste, nous parlait de Dakar au Sénégal.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Côte d'Ivoire, la coalition formée autour du président Alassane Ouattara a raflé la majorité des sièges des législatives de dimanche. La commission électorale indépendante, la CEI, a attribué 167 sur les 254 sièges du nouveau Parlement à la mouvance présidentielle. L'ancien parti de Laurent Gbagbo n'a gagné que 3 sièges, tandis que les indépendants en ont obtenu 75. Éric Manirakiza a joint à Abidjan le directeur de publication du quotidien La Voix Originale. Suspendu pour 30 jours depuis le 7 décembre dernier, il s'appelle César Etou.
L'opposition crédible a appelé au boycott. Ce qui fait que la coalition au pouvoir, le RHDP, s'est retrouvée face à elle-même. La coalition et ses dissidents qui sont les indépendants que nous voyons. Alors voilà les résultats qu'on obtient à vue d'œil. La coalition au pouvoir, 167 députés. Les indépendants, 75 députés. L'UDPCI, 6 députés. UPCI, 3 députés, FPI de Pascal Afingessa, 3 députés.
Qu'est-ce qui fait que les indépendants, quand même, enregistrent un grand score?
Rien n'a changé parce que ces indépendants sont tous des militants du RHDP, c'est-à-dire de la coalition au pouvoir, qui sont rentrés en dissidence parce que leurs candidatures ont été rejetées par la coalition. Donc ils se sont présentés en indépendant, mais on sait ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ils vont tous rejoindre les partis politiques à partir du moment où ils ont gagné. Ce qui fait que le RHDP se retrouve avec 167 députés, plus 75, ça va constituer déjà 242 députés. Donc la coalition au pouvoir se retrouve encore une fois dans une assemblée qui va être extrêmement monocolore.
Donc le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo qui a appelé au boycott, le taux de participation est de 34%. À qui profite la chaise vide?
À chaque élection, la démonstration est faite que le pouvoir de M. Alassane Ouattara est illégitime. Ce taux de participation qui n'est pas du tout élevé, malgré la diversité apparente des candidatures, montre bien que la population n'est pas allée voter. Elle a obéi au mot d'ordre de boycott parce que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le dit.
Et à qui profite la chaise vide?
La chaise vide profite à ceux qui ne sont pas allés voter et qui ont quelque chose à démontrer, qui ont quelque chose à réclamer, à exiger des conditions indépendantes, c'est-à-dire à l'opposition crédible, l'opposition représentée par le parti FPI du président Laurent Gbagbo, dont l'intérimaire est Abdourahmane Sangaré.
Mais ils ne vont pas siéger au Parlement, c'est donc 5 autres années de perte pour le FPI.
Oui, ça veut dire que se présenter et subir la violence, l'arbitraire, ce parti a préféré ne pas aller se prêter à un jeu où rien n'était transparent. C'est ça qui est le problème. Les Ivoiriens ont envie de vivre, n'ont plus envie de connaître la violence électorale. Le jour où les conditions seront réunies pour qu'il n'y ait plus de boycott, vous allez voir, ce parti-là va rafler tous les sièges. Pour l'instant, on continue avec un parlement monocolore et c'est dommage pour la démocratie en Côte d'Ivoire.
César Etou à Abidjan, le directeur de publication du quotidien La Voix Originale.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Quatrième partie de notre série VOA Afrique consacrée au virus Ebola. Notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara, s'est rendu à Gekedou. Il nous parle aujourd'hui de la vie difficile des survivants.
Après la maladie, vraiment, on vit, mais difficilement.
Sekou était commerçant. Mais depuis leur sortie du centre de traitement, lui et son épouse mènent une vie difficile.
J'avais pris l'argent ici, je suis allé précisément à Zérékouré. J'ai engagé l'argent, j'ai donné les filles vides pour me mettre l'huile. Bon, la maladie m'a attaqué, ils ont allé me prendre, le gars m'a servi de mauvais huile. J'ai perdu l'argent et il ne m'a pas remboursé. Depuis lors, vraiment, rien ne va.
Sakat Kamano lui vit avec ses frères et sœurs dont il a la charge. Trouver un emploi reste une urgence pour lui.
Quand il y a un appel d'offres, par exemple, pour un emploi, je me présente. Il y a des amis qui sont là-bas, on postule, il y a les papiers qui sont là. Les gens ne considèrent pas tellement, c'est-à-dire notre présence dans l'acte. Donc c'est comme ça, depuis l'urgence ici, ils ont fermé le CTE. Moi, je n'ai plus la chance de travailler avec autre projet ou autre institution.
Si les plus grands s'en sortent difficilement, pour Rose, 13 ans, rien n'a changé.
Tous mes amis, ils s'approchent de moi. Même à l'école, on mange, on s'amuse, tout. Même une seule journée, ils n'ont pas dit que hey, Rose, toi qui es derrière nous, comme tu es guéri de bras, jamais.
Du retour de Gekedou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, des militants en faveur des droits des migrants organisent des ateliers à l'intention des sans-papiers. Une initiative fébrilement menée à quelques semaines de l'arrivée à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump qui a promis d'être plus ferme en matière d'immigration. Le point avec Lionel Garima.
À Hertzville, une localité de l'État du Maryland proche de Washington, une centaine de sans-papiers sont réunis dans une salle. Tout d'un coup, les volontaires travaillant avec eux frappent à grands coups un tableau accroché au mur, à la manière des policiers lors d'une perquisition. Le silence s'installe dans la salle. La session est organisée par l'ONG Hispanicasa pour enseigner aux sans-papiers leur droit à faire face à la police. Alma Colbotti est une organisatrice de CASA.
Nous devons tous connaître ces droits et comment les défendre. Le droit de garder le silence, le droit à un avocat en cas d'arrestation et celui de donner uniquement votre nom et votre lieu de résidence dans le Maryland. C'est tout ce dont vous avez besoin.
Le président élu Donald Trump a clairement exprimé son intention de lutter vigoureusement contre l'immigration illégale, notamment en érigeant un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a promis d'expulser les millions de sans-papiers vivant aux États-Unis. Maria Herrera fait partie de ce groupe. Elle a bénéficié d'une initiative du président Obama datant de 2012 et protégeant les sans-papiers venus aux États-Unis en tant qu'enfants. Donald Trump peut y mettre fin d'un coup de plume, déplore-t-elle.
Je suis très anxieuse car s'ils décident d'annuler cette mesure, de nombreuses personnes seront séparées de leur famille. Je devais venir ici pour m'informer car je n'ai pas tellement d'informations.
Ce n'est pas une bonne période pour les gens comme Maria Herrera, reconnaît Dan Stein, président de la Fédération pour la réforme de l'immigration américaine. Ce dernier estime cependant que des ateliers comme celui de Hyattsville rendent difficile le travail des autorités. Ce que ces organisations tentent de faire est de rendre difficile l'identification par les policiers de qui a le droit d'être aux États-Unis et qui est en situation irrégulière. Question de bloquer l'application des lois de l'immigration. Le président élu Donald Trump a exprimé de la sympathie pour les quelques 741 000 sans-papiers bénéficiant de la mesure de protection prise par le président Obama. Mais il n'a pas écarté l'idée de la supprimer.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Assistant, elle aime que je lui mette dans l'insulte. Coupé, décalé, Afghanistan, je frappe. Respecte-moi, c'est pas une affaire de rap. Je serai pas Kika si je roule en Lada. Si t'as pas Bulta, Walluna, t'as quitté là-bas. Il faudra tout avaler, ça va aller. Piraterie ne s'arrêtera jamais. Pas dans la tête, pas la meilleure est partie. Mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. Pas dans la tête, pas la meilleure est partie. Mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace.
On est là pour faire danser tout pana, tout pana. Y'a des femmes du champagne ici, c'est pana, c'est pana. On est venu faire danser tout pana, tout pana. On est parti.
C'est la fin de cette édition. On remercie Michel Joseph qui en a assuré la mise en onde, à la présentation Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez avec nous vos impressions, vos photos, posez-nous des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.